Radio Cité Genève.
Genève Internationale. Epiphany Monfaux.
Bienvenue à toutes et à tous dans la seconde partie de cette émission qui traite des rapports entre la presse et les organisations internationales de la SDN jusqu'à l'ONU. L'événement organisé par le Club Suisse de la Presse et quelques-uns de ses partenaires visait à révéler l'évolution d'un journalisme unique né dans l'effervescence diplomatique de Genève. Nous sommes avec Pierre-Étienne Bourneuf, conseiller scientifique à la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève. Il revient sur l'émergence d'un nouveau journalisme dans le contexte international. Pierre-Étienne Bourneuf avait présenté durant cette soirée, organisée à l'occasion de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel de l'UNESCO, je le rappelle. Pierre-Étienne Bourneuf avait donc présenté des archives inédites témoignant du rôle crucial des journalistes dans la diffusion de l'information diplomatique et du développement des relations multilatérales. Entretien. Bonjour Pierre-Étienne Bourneuf.
Bonjour.
Vous êtes conseiller scientifique à la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la création de la Société des Nations a suscité l'émergence d'un nouveau journalisme à Genève, en référence justement à la présentation que vous avez faite tout à l'heure sur la naissance d'un nouveau journalisme?
Alors, c'est vrai que quand on parle de SDN, de Société des Nations, on a souvent tendance à l'associer à un échec, et c'est comme ça que l'expérience SDN est un peu résumée. Et en fait, c'est vrai qu'on oublie que la SDN a conduit, ou plutôt a été créée pour construire une nouvelle diplomatie, une diplomatie qui était basée sur le principe de la diplomatie ouverte et de la publicité des discussions diplomatiques. Ce qui était absolument révolutionnaire après le premier conflit mondial, parce que avant, eh bien, c'était plutôt la diplomatie secrète qui prévalait. Et d'ailleurs, qui était considérée une des causes de la première guerre mondiale. Et donc, en fait, à Genève, pour la première fois, on va un peu ouvrir les portes des salles des négociations, et pour la première fois, les journalistes vont être en mesure d'assister aux discussions. Et bien sûr, dans cet environnement international, va naître un nouveau type de journaliste. Un journaliste, justement, le journaliste accrédité à Genève doit développer des caractéristiques très particulières.
Il
doit
avoir... Quelles sont justement ces caractéristiques?
Eh bien, ça peut paraître un peu étrange aujourd'hui, mais les connaissances d'un journaliste qui doit travailler dans un milieu international doivent être beaucoup plus vastes, étendues que dans un journaliste qui est habitué à la politique, par exemple, nationale. Au niveau international, il faut bien sûr connaître les grandes questions politique, les grands différends qu'il peut y avoir entre les gouvernements, mais il faut aussi connaître les activités techniques de la SDN. Et voilà, alors ça peut aller à la double imposition, à la protection des réfugiés, à la traite, par exemple, des femmes et des enfants, jusqu'au désarmement, le droit international. Donc il faut vraiment avoir une palette de connaissances qu'un journaliste national peut-être ne doit pas acquérir. Ensuite, il faut aussi savoir se mouvoir dans ce milieu international, savoir recueillir des informations, connaître les sensibilités politiques, connaître les sensibilités aussi nationales des interlocuteurs avec lesquels on est mené à travailler, ou du moins à interviewer. Et puis parfois aussi, il faut faire attention, parce que quand on envoie un papier à l'imprimerie qui est corsé, eh bien on peut avoir des répercussions aussi, parce que un papier peut avoir des répercussions diplomatiques. Et donc le journaliste doit savoir se mouvoir dans tout cet univers. Et c'est pour ça qu'un nouveau type de journaliste né à Genève avec la SDN.
Justement, parlant de diplomatie et de diplomates, comment les relations entre journalistes et diplomates ont-elles évolué au fil des décennies à Genève, de la SDN à aujourd'hui l'ONU?
Alors, elles ont beaucoup évolué et peut-être n'ont pas évolué du tout. Il y a des relations parfois tendues, parfois tumultueuses, parfois des relations d'amitié. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que la frontière entre journalisme et diplomatie est très fine, parce que beaucoup de diplomates ont été dans leur carrière des journalistes, ou après avoir fini leur carrière de diplomate ou de représentant de leur pays ici, sont revenus comme journalistes. C'est le cas, par exemple, de Henri Lafontaine, un délégué belge. Tout ça pour vous dire que c'est très intéressant, parce que les interactions se font de manière officielle à travers des communiqués, mais aussi à travers des rencontres officieuses dans les couloirs, dans les salles des pas perdus par exemple, ou plus souvent dans les bars, dans les restaurants. Et donc c'est extrêmement intéressant de voir que encore aujourd'hui, en fait, c'est un peu le même sport. C'est vraiment très sportif pour les journalistes de la Genève internationale pour avoir accès aux diplomates, et ce jeu de la relation entre le diplomate et le journaliste est un jeu qui est encore aujourd'hui très très actuel.
Quel document d'archives avez-vous choisi de présenter pour illustrer cette évolution et pourquoi ?
Alors j'ai choisi surtout des photographies, tout simplement pour montrer un peu l'évolution de manière visuelle, mais aussi certains documents, comme par exemple un document sur une conférence d'experts de la presse de 1927, où les journalistes, les membres de les représentants de la presse ont commencé à travailler sur, par exemple, comment contrer la divulgation des fausses nouvelles, ce qu'on appelait les fausses nouvelles à l'époque, aujourd'hui fake news, mais aussi des cartes de l'association des journalistes accrédités auprès de la SDN d'autres photographies peut-être très intéressantes comme le bar de la presse qui était vraiment le point de repère des journalistes et qui était considéré un lieu de travail à part entière. Et je crois avoir compris en suivant le débat qui a suivi ma présentation avec des journalistes qui travaillent aujourd'hui aux Nations Unies que c'est encore le cas.
En quoi le regard de la presse influence-t-il le déroulement des négociations internationales ?
Il est très important parce que la presse reflète en quelque sorte, à l'époque de la SDN, reflétait un peu l'opinion publique nationale. Donc elle reflétait une opinion publique multinationale, entre guillemets. Elle est très intéressante pour les délégués et pour les fonctionnaires internationaux parce que les négociations ne se tiennent pas dans le vide. C'est-à-dire que les journalistes écoutent les diplomates, mais les diplomates ont toujours un journal sous le bras pour lire la presse nationale ou internationale pour savoir comment les négociations sont reçues et comment elles sont perçues.
Quel moment marquant de la diplomatie internationale avez-vous retrouvé dans les archives de la SDN et de l'ONU ?
Elles sont innombrables. J'ai dû faire une
sélection. Quelques perles.
Voilà, quelques perles. J'ai dû faire une sélection non objective, très subjective. En fait, il y a une réunion qui m'a particulièrement marqué. C'est la réunion de l'Assemblée en l'été 1936, une assemblée extraordinaire. Parce qu'il y a deux événements où les journalistes sont protagonistes de manière différente. La première, c'est lors de l'intervention du négus Haïlé Sélassié devant l'Assemblée. Alors, l'Éthiopie avait été envahie par l'Italie mussolinienne et le négus était venu à Genève pour demander l'aide de la SDN. D'ailleurs, l'Éthiopie, l'Abyssinie, comme on l'appelait à l'époque, était un État membre de la SDN. Donc, sa place était tout à fait légitime. Et au moment de prendre la parole, des journalistes italiens qui avaient pris place dans la galerie réservée à la presse vont l'interrompre en huant, en invectivant le négus. La police va rapidement intervenir, mais dans le cohue, vont appréhender aussi un journaliste espagnol qui va beaucoup protester et pour mettre fin à ses protestations, les policiers vont le bâillonner. Et il va être traîné en dehors du bâtiment de l'Assemblée. Et en dehors de ce bâtiment, il y a un jeune photoreporter, Robert Capa, qui va prendre une photographie qui pour moi est très marquante de ce journaliste dans une voiture de police bâillonné et qui, à mon avis, reflète exactement le silence assourdissant des grandes puissances, surtout des puissances démocratiques, qui n'ont pas agi en 1936 pour aider l'Éthiopie. Ensuite, il y a un événement qui est très peu connu, voire presque inconnu, qui a suivi quelques jours après, où un photoreporter tchécoslovaque, Stefan Lux, en fait s'est suicidé dans la salle de l'Assemblée pendant la séance de l'Assemblée en se tirant un coup de pistolet dans le cœur pour dénoncer le traitement plutôt les persécutions des populations juives en Allemagne et aussi alerter l'opinion publique ce qu'il pensait était la véritable nature du régime nazi. Et cet acte a été complètement étouffé au niveau international. Il y a très peu d'articles qui font référence tout simplement parce qu'à l'époque, pour des considérations politiques, on ne voulait pas vraiment froisser l'Allemagne nazie. On espérait toujours pouvoir négocier avec Hitler. Donc c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, heureusement, il y a des historiens qui commencent à se réintéresser à ce personnage qui mérite certainement d'être connu et son acte désespéré mérite d'être absolument apprécié à sa juste valeur, dans le sens reconnu à sa juste valeur.
Pour clore notre entretien, en quoi l'étude des archives du journalisme international peut-elle inspirer ou éclairer les pratiques journalistiques contemporaines ?
Peut-être parce que le monde est toujours le même. Je suis sûr que les jeunes journalistes seraient surpris de voir que les dynamiques sont très semblables. Et je crois que les journalistes qui étaient présents à cet événement, que ce soit les journalistes ou même les membres des Nations Unies, du service de l'information des Nations Unies, étaient tout à fait d'accord pour dire que certaines dynamiques, certains épisodes que j'ai pu mentionner pendant ma présentation, eh bien sont tout à fait actuels encore aujourd'hui. La relation tumultueuse de collaboration parfois où le service de l'information doit un peu faire le gendarme, même si c'est un mot un peu fort, mais c'était le mot qui a été utilisé à l'époque de l'ASDN, eh bien on retrouve encore aujourd'hui. Et je pense aussi à travers le débat qu'il y a aussi quelque chose qui ressort, cette volonté aussi bien des journalistes que du service de l'information des organisations internationales de faire entendre ce que se passe dans les organisations internationales, qui trop souvent est coupé dans les journaux ou n'est pas assez mis en valeur, ce qui fait que l'opinion publique ne comprend pas ce qui se passe au Palais des Nations au jour le jour, alors que une grande partie des décisions qui sont prises au Palais des Nations peuvent se répercuter après au niveau mondial.
Ça peut être un peu l'effet papillon.
Tout à fait, exactement.
Merci à vous Pierre-Étienne Bourneuf, conseiller scientifique à la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève, pour votre contribution à ce magazine.
Merci beaucoup.